les anciens mensonges, plus beau que les anciens mensonges. Je ne sais ce qui me possède et me pousse à dire à voix haute, ni pour la pitié, ni pour l'aide, ni comme on avouerait ses fautes, ce qui m'habite et qui m'obsède, ce qui m'habite et qui m'obsède.
Je voudrais voir l'automne, l'automne avec toi. Parfois je pense à ce que j'aurais pu être, être. Tiens, la goule du Malibran ou la divine peut-être, être. À les années 30-31, monsieur de truc ou de machin, tu prenais ta vertu et t'avais pignon sur la rue. Je me serais payé dans mon fiat un drôle de tour du monde, monde. Et les montagnes au lac, je l'aurais dansé ma ronde, ronde. En bas à beauté dans mon fiacre, et toi chapeauté, chapeau claque. On s'en serait allé à les fouettes cochées. Et viens, viens donc voir l'automne dans le petit matin, quand le ciel s'étonne sur le canal Saint-Martin. Non mais t'imagines, au lieu de ça je trime. Je voudrais voir l'automne dans le petit matin, quand le ciel s'étonne de Passy à Pantin. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. Je voudrais voir l'automne, l'automne avec toi. On peut rêver, rêvasser à ce qu'on aurait voulu être. C'est foutu, c'est classé, ce n'est pas plus mal peut-être. Être là la fin du jour, gueule d'amour, c'est bientôt la nuit, gueule de nuit. En robe de lumière, je serai à mon affaire. Viens, après tout l'automne, dans le petit matin, quand le ciel s'étonne, on verra ça demain. Viens, la ville s'allume et Paris s'enflume. Après tout l'automne, dans le petit matin, qu'est-ce que ça peut faire puisqu'on s'aimait si bien. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. C'est toi qui m'étonne. Tu la la la. Je suis ta souris gueule de nuit et je vais, je viens, je pense, pense. Y en a que c'est de Saint-Denis, moi que c'est de Montparnasse.
Nothing. comme seule loi, il faudra que ton angoisse disparaisse si ce pas. Voilà l'intraveineuse, la solution à cause. C'est ça la médecine, je veux faire la guillotine. C'est ça la médecine, je veux faire la guillotine. C'est ça la médecine.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va continuer sur un livre dont on a parlé. Jörg Blech, c'est l'auteur. Les inventeurs de maladies, manœuvres et manipulations de l'industrie pharmaceutique. Un essai traduit de l'allemand par Isabelle Lieber. Et c'est paru aux éditions Babel.
C'est complètement épuisé. Hein. Pour le trouver, il faut le commander, par exemple, d'occasion, sur Internet, je pense. Voilà. Il n'y a pas d'autre moyen, il est épuisé.
Il date de avril 2018. Mmh. Et donc aujourd'hui, on va aborder un chapitre qui évoque la génétique. C'est le chapitre 10, intitulé « On n'échappe pas à ses gènes ». La naissance de l'Homo geneticus fut officiellement annoncée à la Maison-Blanche le 28 juin 2000 et fêtée comme le couronnement de l'empereur à grand renfort d'encens, d'orgues et de fanfares. Le président des États-Unis Bill Clinton et le premier ministre britannique Tony Blair s'adressèrent au monde entier, entourés des plus hauts dignitaires de la science. L'humanité dépliait en ce jour la carte de contrées nouvelles, sans doute la plus importante et la plus exceptionnelle encore jamais tracée par l'être humain, annonça Clinton. Celle-ci offrait la chance, je cite, « de comprendre enfin la langue dans laquelle Dieu avait conçu la vie ». Cette fameuse carte, c'était le génome humain, c'est-à-dire l'ensemble de tous les chromosomes, dont la séquence, composée de milliards de paires de bases, venait presque d'être entièrement décryptée. Or, si les chercheurs ont pu proposer et réaliser, grâce aux milliards des contribuables, l'immense projet du génome humain, ce n'est qu'en promettant aux politiques et aux citoyens que la découverte de la séquence permettrait d'améliorer la santé de l'être humain. Le code ADN était décrit comme un terrain d'application pour de nouveaux traitements contre les maladies héréditaires et de nombreuses maladies en partie conditionnées par la génétique. Le jour du décodage officiel fut riche de promesses. Bill Clinton félicita Tony Blair de la naissance de son fils, soulignant que son espérance de vie avait en ce jour gagné 25 ans. Le président américain prophétisa pour les années à venir l'éradication de l'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, du diabète et du cancer. La découverte du génome représentait la promesse d'une vie meilleure pour tous les citoyens de la planète. Aujourd'hui, les premiers produits censés amorcer ce processus sont disponibles sur le marché. Il s'agit de tests génétiques mis à la portée de tout un chacun et qui doivent nous permettre d'être en meilleure santé. Les gènes, explique la biologiste Rosaline Gill-Garrison, peuvent révéler à chacun de nous l'alimentation qui lui est adaptée et le mode de vie qu'il doit mener. L'américaine, employée par l'entreprise Siona, a développé le tout premier test génétique disponible en supermarché. Fondé sur l'examen de 9 gènes, le procédé, baptisé « You and your genes », vous et vos gènes, devrait nous faire cadeau d'une vie plus saine et plus longue. Les clients de ce produit sont des individus bien portants qui croient aux promesses de l'industrie de l'art de vivre. Siona propose son analyse génétique dans le monde entier, sur Internet, par téléphone et même au printemps 2002 dans les filiales du Body Shop en Angleterre. La chaîne de produits de beauté implantée dans le monde entier qui honnit justement les tests sur les animaux et encense le recyclage ouvre ainsi la voie d'une médecine à la Aldous Huxley. La référence, c'est évidemment... C'est
le meilleur des mondes.
Brave New World en anglais. L'analyse radicalement novatrice du patrimoine génétique garantissait, dit le Body Shop, que le corps et l'alimentation travaillaient ensemble en parfaite harmonie. Les clients du test génétique doivent remplir un questionnaire relatif à leurs habitudes alimentaires et à leur consommation d'alcool et de tabac, puis frotter un coton-tige spécial contre l'intérieur de la joue pendant une minute environ. Quelques 2000 cellules adhèrent alors au coton-tige que le client, après l'avoir enfermé dans un tube, fait parvenir à Skiona. L'entreprise s'est installée dans un parc économique de Avant, dans le sud de l'Angleterre. Le ministère du Commerce et de l'Industrie de Grande-Bretagne a même décerné à cette nouvelle fondation le Smart Award, un prix de recherche convoité. Dans les laboratoires flambant neufs, les chercheurs extraient tout d'abord le patrimoine génétique des échantillons cellulaires envoyés. L'étape suivante consiste ensuite à copier les gènes cibles en millions d'exemplaires. À la suite de cette démultiplication, un procédé particulier de coloration permet de reconnaître la variante génétique de l'individu. Quelques semaines plus tard, le client reçoit le résultat assorti d'un profil génétique. S'il n'en tenait à Skiona, le procédé d'analyse, dont le prix s'élève à 120 livres, serait déjà en vente dans les magasins d'Amérique et d'Europe continentale. Madame Gil Garrison, directrice de la recherche, songe dès à présent aux possibilités d'expansion. Un marché international qui échappe à tout contrôle, ou presque, a d'ores et déjà vu le jour sur Internet. Outre des prestataires américains et anglais, deux entreprises originaires de l'espace germanophone commercialisent aujourd'hui librement des analyses génétiques sur Internet. Alors, on est en 2008. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Cette forme de commercialisation des tests est interdite aux médecins, car ceux-ci, après le droit civil, ne sont pas autorisés à faire de la publicité pour des tests prévisionnels, prophylactiques. Paradoxalement, cela ne vaut que pour les médecins. Et c'est ainsi qu'une ingénieure diplômée dirige à Berlin une entreprise de ce type, GenTest 24. En échange de 500 à 1600 euros et après envoi d'un échantillon de salive, l'entreprise fait analyser une série de caractéristiques de l'ADN par un laboratoire de génétique berlinois. L'analyse du patrimoine génétique révélerait prétendument les risques pour le client d'être atteint de la maladie d'Alzheimer, d'un cancer du sein ou du côlon, d'ostéoporose, de troubles de la coagulation et de différentes maladies du métabolisme. De son côté, le centre de diagnostic individuel installé à Francfort-sur-le-Main s'applique à déterminer l'existence de prédispositions génétiques à l'infarctus, à l'obésité, au comportement de dépendance, aux troubles liés à la ménopause et à l'hypertension. Le diagnostic génétique permettant d'obtenir un profil de risque anti-âge coûte, par exemple, 653,61 €. L'entreprise donne adroitement l'impression que ces tests génétiques constituent une mesure préventive, au même titre que arrêter de fumer. Seul celui qui connaît les risques qui le menacent peut s'en protéger. Quant à elle, l'entreprise américaine Neuromark Diagnostics est actuellement à la recherche de patrimoine génétique prétendument en rapport avec la dépendance, les dépressions, la boulimie, les troubles de l'angoisse et l'hyperactivité. Il s'agit de disposer au final d'un modèle de 20 à 50 gènes clés permettant de prédire le comportement humain. La mise au point d'une telle boule de cristal biotechnologique serait une véritable révolution. Mais elle demeurera une escroquerie high-tech. Pourquoi ? Parce que les faits et gestes de l'être humain sont bien trop complexes pour être prédits par une simple puce génétique. Par conséquent, les prestations offertes par l'entreprise Siona paraissent elles aussi bien douteuses. Elles reposent sur le fait que l'identité génétique d'un individu est unique. Une paire de bases sur 1000 environ, diffère d'un individu à l'autre, ce qui, rapporté à la totalité des 3 milliards de bases, donne quand même 3 millions de différences. Cette diversité génétique est un précieux héritage de l'évolution car elle garantit les chances de survie de l'Homo sapiens, par exemple dans le combat contre les rusés agents pathogènes. Le patrimoine génétique de l'être humain recèle quantité de différences de ce type que les biologistes nomment polymorphisme. Ceux-ci peuvent concerner différents processus physiologiques. On peut par exemple citer le polymorphisme relatif à la digestion des asperges qui diffère selon les individus. L'urine de certaines personnes dégage après ingestion de cet aliment une odeur anormalement forte. Aussitôt que le profil génétique d'un client a été déterminé, les employés de Siona bricolent un compte-rendu personnel à partir de lieux communs. Celui-ci dispense des conseils nutritifs à la lumière de l'analyse du patrimoine génétique. Mais à y regarder de plus près, il s'agit là d'une absurdité déguisée en vérité scientifique. Vous et vos gènes analysent en effet 9 gènes jouant un rôle dans l'assimilation de l'alimentation. Toutefois, seuls 6 des gènes ayant un lien avec l'élimination physiologique des toxines sont testés. Pour de simples raisons statistiques, il se trouve donc presque toujours dans cette zone une différence. Siona affirme cependant que les enzymes clés pourraient alors « travailler » entre guillemets, à une vitesse susceptible d'être inadaptée à l'élimination des toxines. Les explications évasives débouchent sur des conseils valables pour tout un chacun. Il convient d'éviter de consommer de la viande trop grillée et de manger beaucoup de légumes.
C'est vraiment la peine d'être un scientifique de haut niveau pour donner des conseils comme ça.
Voilà. D'autres conseils de Siona sont tout aussi banals. Les comprimés de vitamines et les fruits sont recommandés. Les cigarettes sont à éviter. Et l'alcool ne doit être consommé qu'avec modération.
Pour les comprimés de vitamines, on peut dire que les avis sont partagés en plus.
Oui. Rosalind Gill Garrison, chercheuse chez Siona, avoue que ces coûteux conseils n'ont rien de très original. Les bonnes recommandations ne manquent pas, déclare-t-elle. Mais les nôtres sont sans doute suivies plus sérieusement parce qu'elles se fondent sur un test personnel. Pour la première fois, nous pouvons dire aux gens ce qui, en raison de leur gène, est bon pour eux. Cette affirmation manque totalement de fondement, cependant. Même si l'analyse de Siona révèle qu'un gène ne fonctionne que de manière restreinte, cela n'indique en rien que l'état de santé général en pâtit. Les prétendus effets sur la santé des polymorphismes analysés ne sont absolument pas prouvés, critique Peter Propping, généticien à l'université de Bonn. Comme on l'a vu plus haut, Siona se fonde sur l'analyse de 9 gènes. Or, au total, ce sont des centaines de segments du patrimoine génétique qui jouent un rôle dans l'assimilation de l'alimentation.
Sans parler de tout ce qui est lié... je sais pas, si dans ton enfance t'as mal mangé, t'as été dénutri, par exemple, pour différentes raisons, ça peut quand même, que t'as eu une maladie entre deux, ou tout un tas d'autres raisons, hein, c'est tellement multifactoriel que ça vaut pas le coup d'essayer de faire des pronostics, en fait.
Tu peux pas circonscrire comme ça.
Non, c'est évident. Enfin, ça devrait être évident.
La manière dont se déroulent ces interactions complexes est encore à découvrir. Nous ne connaissons même pas encore avec précision les liens entre les gènes et l'alimentation, déclare le scientifique britannique Roland Wolfe de l'université de Dundee. Sans compter l'influence non négligeable qu'exerce l'environnement sur la santé. Il est en outre absurde de tester, comme le fait Siona, le gène codant l'alcool déshydrogénase dont beaucoup d'Asiatiques possèdent une variante sans effet. Car celui qui possède l'enzyme défaillante se rendra compte lui-même assez tôt des conséquences. L'alcool, même en quantité très restreinte, déclenche la production d'un produit intermédiaire nuisible dans le corps. Rougeur, malaise et palpitations sont les symptômes de cet empoisonnement. Au printemps 2002, une délégation de la Human Genetics Commission de Grande-Bretagne visita les laboratoires de Siona récemment inaugurés et rendit son jugement dans un rapport. Nous n'avons pas connaissance d'études scientifiques solides qui auraient montré qu'une modification du régime alimentaire conditionné par la carte d'identité génétique d'un individu serait d'une influence quelconque sur la santé.
Juste une parenthèse par rapport même à l'histoire de ceux qui se rendent bien compte qu'ils sont trop sensibles à l'alcool, c'est général. Je pense que le meilleur baromètre que tu as, enfin, je pense que tout le monde peut le dire, absolument tout le monde, on sait bien quand certains aliments, par exemple, ne réussissent pas, si on supporte mal que ce soit l'alcool, le tabac ou n'importe quel aliment et que tout de suite on a une, par exemple, une allergie ou simplement qu'on a des problèmes digestifs ou tu vois, je sais pas, c'est un truc qu'on se rend compte tout seul que c'est quelque chose, il y a des choses qui sont collectives. On va dire que c'est évident qu'on ne va pas conseiller de fumer comme un pompier, de bouffer comme un porc, des tartines de graisse ou je ne sais pas quoi. Enfin, que, si tu veux, c'est vrai que c'est tellement évident. Tu vois, j'ai à un moment donné, j'étais pour gagner ma vie, j'étais pigiste dans un journal de santé et je discutais avec d'autres qui faisaient la même chose et on disait, bon, c'est pour faire vendre du papier parce que tu sais, les articles pour comment être mince, devenir mince pour l'été sur la plage, je ne sais quoi. Et alors qu'on disait, en fait, on en écrit des tartines, alors que le conseil, il tient en deux mots, en fait, mangez moins, quoi. Tu vois, c'est, et grosso modo, enfin, tout le monde sait très bien ce qui est pas très conseillé pour la santé. Et pour tout ce qui peut être personnel, ben, une fois qu'on l'a testé, on le sait, et puis c'est tout, quoi. Donc c'est vraiment du foutage de gueule, un peu le côté, attends, c'est sérieux, c'est scientifique, c'est à cause de tes gènes, à la limite, ça fait quoi comme différence de savoir que quand tu sais que tu supportes pas ou l'alcool ou un aliment, ou que tu es allergique à la fraise, le fait qu'on te montre le gène qui fait que tu supportes pas la fraise, qu'est-ce que ça fait comme différence? Ça n'a aucun intérêt, oui, tu manges pas de fraise, c'est tout.
Ouais. Ouais, ces tests permettent en fait de relancer tout un... voilà, toute une série de discours médicaux. Ouais.
Oui, et puis comme c'est démontré dans tout le bouquin, il y a aussi du pognon à se faire. Hein. Enfin, il vient de le démontrer aussi.
Tout à fait. Alors, je poursuis.
Oui, excuse-moi.
Non. C'est... Des experts allemands déconseillent de se soumettre à de telles analyses. Ce ne sont que des bêtises sans aucune valeur, déclare le généticien Peter Propping. Qu'un tel test génétique soit proposé sur le marché libre est une véritable catastrophe. Les dirigeants du Body Shop se sont eux aussi finalement rangés à cet avis. Quelques mois après, à peine après son lancement, ils rayèrent de leur catalogue le fameux test génétique. Vous et vos gènes a encore d'autres raisons de laisser songeur. 20 à 40% de la population présente une variante prétendue médiocre d'un gène analysé. Chez la plupart des individus, les chercheurs mettent par conséquent au jour 5 ou 6 de ces variations. Statistiquement, presque aucun être humain ne possède donc un patrimoine génétique parfait, d'après les critères de l'entreprise Siona. Grâce aux tests, la plupart des êtres humains sont ainsi déclarés génétiquement déviants. Jusqu'à présent, ces tests n'ont préservé l'être humain d'aucune maladie. Ils déclenchent même exactement le contraire, une extension du domaine de la maladie, car l'analyse génétique permet de transformer en patient quantité d'individus bien portants. Notre société subit un processus de génétisation, constate le philosophe néerlandais Henk ten Have. Facette du bien... plus vaste processus de médicalisation, du bien plus vaste processus de médicalisation, ce processus donne lieu à une redéfinition de l'individu par des notions génétiques, à une nouvelle langue qui décrit et interprète la vie et le comportement humain dans un vocabulaire fait de codes, d'esquisses, de caractéristiques, de dispositions et de complexions génétiques, et à une conception génétique de la maladie, de la santé et du corps humain. Donc c'est une citation de ce philosophe Henk ten Have. Alors, on va mettre on va regarder un peu le revers aussi, peut-être positif qu'on peut trouver dans ces pratiques-là, peut-être. Sondage génétique. Les tests génétiques n'apportent des renseignements utiles que dans le cas de certaines pathologies. 280 maladies environ peuvent être aujourd'hui dépistées grâce à des tests génétiques, et leur nombre augmente rapidement. Pour beaucoup de maladies héréditaires, l'examen des gènes permet d'établir un pronostic sûr, notamment pour les affections engendrées par le défaut d'un seul gène ou une défaillance apparemment minuscule peut entraîner l'apparition de symptômes graves, voire la mort. Dans le cas de ces maladies dites monogéniques, les tests génétiques permettent de déterminer avec clarté si un individu est atteint ou s'il ne l'est pas. Il est ainsi possible d'influencer les risques futurs d'un individu, mais aussi les risques de la maladie au sein des générations à venir, grâce à des examens prénatals et à des avortements sélectifs. On compte jusqu'à 5000 maladies monogéniques. Par bonheur, elles sont très peu répandues dans la population et ne représentent que 2 à 3% de l'ensemble des maladies, ainsi que le signal Gunther Feuerstein et Regine Kolek, tous deux sociologues de la médecine à Hambourg. Si l'on considère les proportions selon lesquelles les chercheurs examinent le génome humain, il paraît évident qu'ils appliquent le diagnostic génétique à des maladies qui ne sont en réalité que faiblement conditionnées par l'ADN. Le cancer et les maladies cardiovasculaires en sont un exemple. Dans ces maladies très répandues, une multitude de gènes jouent, en plus des influences externes, un rôle déterminant. Elles sont alors dites polygènes. Depuis 1982, plus de 20 gènes responsables du transport des graisses dans le sang ont par exemple été découverts. Il est pensable que l'interaction de ces gènes, si elle est défaillante, favorise une sclérose pathologique des vaisseaux sanguins. Quant aux maladies tumorales, leur cas est encore plus complexe. Les chercheurs ont déjà découvert plus de 60 proto-oncogènes qui, s'ils sont modifiés par une mutation, peuvent transformer une cellule saine en une cellule cancéreuse maligne. Dans d'autres cas, d'autres maladies polygènes telles que le diabète, la maladie d'Alzheimer et la thrombose veineuse, les chercheurs ont également identifié ces dernières années un grand nombre de gènes dont la fonction bien souvent n'est pas assez ou même pas du tout comprise. Cette part génétique des affections existe sous différents modèles. Dispersés sur l'ensemble du patrimoine génétique humain, ceux-ci n'ont qu'une influence restreinte sur chacun des risques de maladie. Il est vrai que les chercheurs espèrent, grâce à ce modèle génétique, pouvoir établir des pronostics sûrs quant au risque de maladie. Pour cela, il sera néanmoins nécessaire de réussir un tour de force en tenant compte des influences externes. Les tests génétiques ne révèlent pas encore le moment que choisit une maladie polygénique pour se déclencher, ni la façon dont elle va évoluer, même si des entreprises privées comme Siona et GenTest 24 suggèrent le contraire. Les variantes polygéniques étant très répandues, il y a en effet là la promesse d'affaires juteuses. Résultat, des laboratoires pharmaceutiques tels Roche et Novartis coopèrent avec de petites entreprises biotechnologiques qui développent de nouveaux tests. Or, l'examen génétique ne fournit dans le meilleur des cas que des informations purement statistiques sur les risques. Il ne s'agit que de probabilités. Pour les personnes testées positive, il n'est pas simple de le comprendre. En outre, le résultat peut avoir un effet pervers. Commercialisé avec succès aux États-Unis, le test génétique pour le cancer héréditaire du sein et des ovaires en est un exemple éloquent. Dans sa publicité, le fabricant américain Myriad Genetics Laboratories s'adresse directement aux femmes. Y a-t-il des cas de cancer du sein et des ovaires dans votre famille ?
Juste une parenthèse, les médecins posent toujours, enfin, je sais pas, j'ai quasiment, enfin, dans un premier contact avec quelques médecins que ce soit, ils te demandent toujours ça, si tu as des cas de cancer du sein dans ta famille. Oui. Ouais, toujours. Et donc ce serait que probablement, alors que tu n'as aucun soupçon dans ce sens-là, hein, je veux dire. Alors que, mais probablement, c'est dans cet esprit-là que ce serait un risque accru, donc voilà, c'est noté dans ton dossier. Que par exemple, tu as une tante ou ta mère ou ta grand-mère qui a eu un cancer du sein ou des ovaires. Mmh. Ouais, c'est un truc très répandu. Au-delà des tests, de la vente de tests, quoi. Mmh.
Donc les Myriad Genetics Laboratoire s'adresse directement aux femmes. Ils posent la question, donc, cette question-là, et elle ajoute « Vous pouvez réduire vos risques, nous pouvons vous y aider ». Le test génétique, qui coûte la bagatelle de 2500 euros, permet certes de déterminer si une femme est porteuse d'un des deux gènes du cancer, le BRCA1 et le BRCA2. Mais il ne permet en aucun cas de dire si, en présence d'un de ces gènes, la maladie va réellement se déclencher. Les femmes dont les résultats sont positifs doivent prendre la décision de se faire ou non retirer les ovaires et les deux seins de manière prophylactique.
On a beaucoup parlé quand il y a eu l'histoire, enfin tu es sûrement au courant de l'histoire d'Angelina Jolie, qui s'est fait, l'actrice, qui s'est fait couper les deux seins, effectivement, suite à une analyse génétique.
Ah oui, ben voilà. Un exemple.
Enfin, qui a été un peu médiatisé, qui du coup a mis la question sur le tapis, un peu, vu que c'était quelqu'un de connu, n'est-ce pas?
De nombreuses Américaines et quelques Allemandes se sont ainsi fait amputer, et ce, en dépit du fait que 40 à 50% des porteuses de ces gènes ne développent apparemment jamais de cancer du sein et 80% jamais de cancer des ovaires. D'ailleurs, même lorsqu'il s'agit de maladies héréditaires pour lesquelles la recherche est très avancée, les gènes peuvent mentir. Dans le cas de la muscovicidose, également appelée fibrose kystique, qui est la maladie héréditaire la plus répandue en Europe centrale, 3 à 5% des porteurs purement héréditaires ne développent jamais la maladie. Le séquençage du génome humain fera ainsi apparaître des millions de variantes génétiques que les médecins seront forcément tentés de présenter comme déviantes, indésirables et pathologiques. Des jours glorieux s'annoncent pour les inventeurs de maladies. Les scientifiques anglais David Melzer et Ron Zimmern mettent en garde contre cette pratique qui consiste à classer les individus en sains et en malades selon leurs caractéristiques génétiques. Citation : En montrant que le génome de chaque individu est différent et que, d'une certaine manière, nous sommes tous hors normes, la génétique nous contraint à repenser dans une démarche fondamentale le concept de normalité en tant que tel. Fin de citation. Même si le profil génétique semble suggérer le contraire, seuls les états qui nuisent au bien-être des patients ou le menacent doivent être considérés comme maladies. La maladie de Gilbert est l'exemple typique d'un phénomène physiologique que l'on peut diagnostiquer mais qui ne nuit en rien à celui qui en est atteint. Lorsqu'elles sont soumises au stress, les personnes touchées présentent un taux élevé d'enzymes du foie. Le génome humain cache aussi bien des variantes qui, comme la maladie de Gilbert, sont peut-être intéressantes d'un point de vue scientifique, mais sans importance pour la santé. Dans le magazine scientifique Science, Larissa Temple, médecin au Canada, s'insurge contre cette nouvelle habitude d'étiqueter comme patient des individus bien portants, et ce, en raison de leur profil génétique. Citation : Tant qu'il n'a pas été prouvé qu'une mutation révèle un risque précis de conséquences nuisibles, les individus porteurs de cette mutation ne devraient pas être considérés comme atteints d'une maladie. Fin de citation. Les chercheurs vont rencontrer dans le génome humain une myriade de petites variations génétiques. Définir les conséquences négatives qu'elles pourraient avoir et déterminer les risques de manière adéquate représente donc un travail de titan que l'on ne pourra peut-être jamais mener à bien. La plupart des caprices de la nature, la forme des oreilles qui en est un exemple visible, par exemple, se répartissent uniformément sur la population et pour beaucoup ne sont même pas perceptibles. S'ils sont liés à des symptômes, ceux-ci peuvent apparaître avec plus ou moins d'intensité selon les individus. Les gènes ne dessinent pas de frontières nettes. Afin de distinguer entre sain et malade dans le continuum que la nature a constitué, les médecins utilisent des critères arbitraires soumis aux phénomènes de mode, qui sont loin d'être rares en médecine. Au fil des années, les frontières du diagnostic et du traitement ont été progressivement repoussées, constatent David Melzer et Ron Zimmern, spécialistes de la santé à Cambridge. Par conséquent, de plus en plus d'individus souffrant de symptômes légers ou présentant un risque réduit ont été rangés dans la catégorie malade. La médecine moderne encouragerait cette tendance, s'inquiètent les deux scientifiques. Les tests, appelés marqueurs, relatifs à des caractéristiques génétiques qui sont sans conséquence sur un demi-siècle ou plus, pourraient devenir de nouveaux exemples de la manière dont une médicalisation prématurée se déroule. On colle une étiquette malade au patient avant même de savoir s'il existe une prévention ou un traitement pertinent. C'est ainsi que le génome devient un facteur de risque médical. Quant au diagnostic, il ne connaît plus de limites. Un homme en bonne santé est un homme dont le patrimoine génétique n'a pas ou pas suffisamment été examiné. Les conclusions d'une analyse génétique, même si elles ne révèlent rien ou pas grand-chose d'un point de vue scientifique sur la santé future de l'être humain, peuvent ainsi être utilisées pour présenter des individus comme anormaux ou malades. Conséquence immédiate, celui qui porte une telle tare risque d'être désavantagé par les compagnies d'assurance et les employeurs. En Allemagne, les compagnies d'assurance vie et maladie se sont spontanément engagées jusqu'en 2006 à ne pas exiger de tests génétiques et à ne pas demander à consulter des résultats déjà existants. Ce renoncement ne vaut toutefois que pour les polices d'assurance inférieures à 250 000 euros. Dans le cas de sommes supérieures, le client doit présenter les résultats des analyses auxquelles il se serait déjà soumis. Alors après, on va... peut-être passer... Bon, ben, voilà.
Est-ce que je peux faire aussi une parenthèse?
Oui, on va faire une parenthèse.
Je t'ai parlé... Enfin, déjà, sur les motivations des enragés, comme ça, de la génétique et du tout génétique, c'est chelou, quoi, hein, carrément. Je veux dire, c'est vrai que ça me paraît aller... De toute façon, ça va bien aussi avec à l'extrême, avec l'idée de l'eugénisme des nazis et de toute... quand on va à l'extrême de cette démarche-là. Ah ben
on en arrive à la fin du chapitre, d'ailleurs.
Oui, voilà, mais c'est un truc qui te vient tout de suite à l'esprit. Parce que, en effet, l'idée que des fois, la génétique ça puisse être, enfin, des analyses génétiques puissent être intéressantes, enfin, puissent avoir un intérêt. Ben, je sais que moi, par exemple, ayant eu deux enfants, j'ai fait à chaque fois une amniosynthèse, tu vois. Et en même temps, on te culpabilise là-dessus. Est-ce que c'est du validisme? C'est sûrement pas de l'eugénisme, parce que je connaissais des femmes qui disaient, moi, ça me dérangerait pas d'avoir un enfant handicapé, mais moi, je sais que c'est un truc que j'aurais eu beaucoup de mal à assumer, donc à titre personnel, même si ça me dérange pas que d'autres... Enfin, je veux dire, j'ai rien contre l'espèce en général des trisomiques, par exemple, c'était un truc... ouais, je pense que j'aurais probablement avorté.
Un jour, on avait eu un débat comme ça sur justement les progrès de la science et médicaux par rapport à la génétique, et on avait parlé justement de l'amniosynthèse, ou est-ce qu'on peut faire une critique de l'amniosynthèse et tout ça, et il y a une intervenante qui a dit tout clairement que si par l'amniosynthèse son enfant se déclarait avoir un trouble du développement, elle avorterait tout de suite.
Bah, c'est-à-dire, si tu veux, c'est vrai que je t'avais déjà parlé d'ailleurs à cette antenne. D'ailleurs, je savais pas, mais en fait, quand t'es venu à la radio, tu étais apparemment le technicien de l'émission de Sylvie de Parole d'Association.
Ah oui.
C'est comme ça que donc tu l'as bien connue.
Un peu d'histoire. Oui.
Et donc c'est une femme qui était atteinte de la maladie des os de verre.
Oui.
Et pour l'avoir un peu fréquentée, j'aurais pas pu assumer psychologiquement, et elle le disait, quoi, d'avoir un enfant dans cet état physique, c'était vraiment dramatique, hein, comment ça se passait, sa vie, enfin, oui. Les difficultés qu'elle pouvait avoir au quotidien, en plus, quand elle a été ménopausée, elle s'est mise à avoir l'ostéoporose, enfin bon, c'était vraiment une vie, vraiment, enfin, je me serais pas vue assumer psychologiquement quelque chose comme ça, c'est déjà dur, quelque part, d'être parent, mais là, ça aurait été vraiment très dur. Et je sais que, en plus, c'est un argument quand même des anti-avortements par rapport à l'idée de... Je me rappelle avoir vu une femme dans ma rue qui était anti-avortement. Sa voisine avait eu la toxoplasmose, et ça fait des enfants... Enfin, c'est tératogène d'avoir cette maladie. Et directement, la voisine, donc, qui avait eu ce test-là, elle, c'est pas un test génétique, d'ailleurs, c'est juste un test de maladie, et ben elle voulait avorter, et l'anti-avortement disait « Mais tu l'aimeras encore plus s'il est handicapé. » Donc, c'est un truc... l'autre lui avait répondu « Je te le file. Hein, » Je veux dire, quelque part, c'est quand même aussi un truc qui fait que tu te dis « Est-ce que je vais assumer ça est-ce que... Enfin, je vais pas l'abandonner non plus. » En plus, il n'y a rien qui est fait dans la société pour t'aider quand tu as un enfant qui est formé comme ça. Donc, il y a d'une part l'échographie qui peut montrer d'autres malformations, mais l'amniosynthèse, enfin l'idée de l'enfant trisomique, et en même temps, c'est très culpabilisant. Parce que, en effet, tu te dis, c'est une démarche qui te semble un peu validiste. Les anti-avortements vont te dire que c'est même carrément eugéniste. Enfin, tu vois, donc, et en même temps, j'ai pas hésité. Si je l'ai fait, c'est que j'aurais été prête à avorter. Une copine qui disait tant pis, moi, même s'il est trisomique, je le garde, pourquoi je ferais une amniosynthèse? C'était logique, si tu veux. Donc voilà. Mais, j'aurais pas assumé ça, je pense. Et voilà, bon. Et sinon, c'était juste une parenthèse. C'est par rapport à l'idée des différentes recherches génétiques. Il y a un type, je crois que c'est même le même encore. Il s'appelle, c'est un chercheur qui s'appelle, un scientifique, qui s'appelle Dean Hammer, un Américain. Il a découvert le gène de Dieu associé à notre capacité de croire ou non. C'était en 2005. Et le même chercheur a antérieurement découvert le gène de l'homosexualité il y a quelques années. Évidemment, une découverte qui n'a jamais été corroborée par aucune espèce de contre-expertise. Et il aurait plus récemment fait des recherches sur le gène, avec succès, bien entendu, enfin, de son point de vue, sur le gène du militantisme. Voilà. Donc, on s'interroge aussi, tu dis déjà rien que sur le truc de l'homosexualité. Pourquoi diable faire des recherches sur qu'est-ce que ça peut foutre de savoir si c'est génétique ou pas génétique? C'est bizarre, comme c'est louche, quoi, carrément, ouais, comme idée.
Puis ça amène à s'interroger sur les orientations politiques de ce chercheur.
Ben voilà, oui, c'est un peu étrange. Mais je pense qu'au-delà de la recherche spécifique, l'idée de vouloir tout expliquer par la science en général, mais par les gènes en particulier, c'est quand même une espèce de rage de contrôle qu'on retrouve dans la religion, qu'on retrouve dans le fait de se dire « je vais tout expliquer, je vais tout comprendre », et de pas pouvoir accepter le fait qu'on peut pas, on peut pas tout contrôler. Un scientifique que j'ai rencontré, que j'avais interviewé pour la radio, qui s'appelle François Terrasson, qui avait écrit un livre qui s'appelle « La peur de la nature qui est épuisée », et puis aussi « Éloge de la friche ». L'idée, c'était que les humains ont vraiment du mal à admettre l'idée qu'il y ait des choses qu'ils peuvent pas contrôler. Et donc, premièrement, ils s'illusionnent sur le fait qu'ils pourraient même tout savoir, mais d'autre part, l'idée que quelque chose est hors du contrôle, par exemple, ils disaient, l'idée que tu vas éradiquer jusqu'à la dernière mauvaise herbe, ou jusqu'au dernier insecte nuisible, jusqu'au dernier nuisible, c'est un truc qui te revient dans la gueule. C'est-à-dire que ils disaient, c'est bête, la nature, elle est ni bonne ni mauvaise, mais a priori, t'as pas non plus à l'accepter, mais ce qu'il m'avait dit, donc, c'était, faut chercher à l'aménager, mais pas à la contrôler, parce que dans tous les domaines, quand tu veux contrôler, c'est juste pas possible, et t'as un prix très lourd à payer. Je vous donne pas les exemples, évidemment, dans des tas de domaines, mais rien que la démarche est toxique, de toute façon. Et tu remarqueras, quand on dit aux gens que, par exemple, sur son idée de la friche, de laisser des endroits, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on puisse exploiter la moindre parcelle de terrain, de moindre animal, le moindre végétal, enfin, que on peut pas voir quelque chose sans se demander qu'est-ce qu'on peut en faire et à quoi servent les gens. Donc tu vas dire un truc comme ça aux gens, et beaucoup, même écolos, vont te dire, ah, mais tu crois que ça sert à rien, mais en fait ça sert à quelque chose, et si ça servait à rien, qu'est-ce que ça peut foutre, si tu veux. Donc tu vois, l'état d'esprit à se dire tout doit servir à quelque chose et je dois tout comprendre et tout contrôler, ça il y a différents symptômes de cette démarche là et je pense que les recherches génétiques en font partie et peuvent avoir aussi les mêmes conséquences toxiques que tout un tas d'autres démarches du même ordre, quoi, de contrôle, de on voudrait comprendre totalement, et il faut que tu justifies que chaque végétal, animal, humain justifie de son
de utilité, sa fonction,
et voilà.
Oui, c'est cette idée de vouloir maîtriser, d'être le maître des choses, alors que ici nous sommes sur la radio sans Dieu ni maître, et c'est Radio Libertaire 89.4, c'est l'entonnoir toujours, émission critique de la psychiatrie. Alors je vais poursuivre la lecture de ce chapitre 10 du livre de Jörg Blech, Les inventeurs de maladies, chapitre 10 intitulé « On n'échappe pas à ses gènes ». Alors, évidemment, ces tests, ces examens génétiques, on l'a vu, conduisent à des conclusions hâtives aussi. Un coup d'œil vers les États-Unis montre combien il est important de réglementer ce sujet houleux grâce à une loi sur les technologies génétiques. Au moins 6 entreprises américaines soumettent leurs employés à des analyses pour déterminer s'ils réagissent de manière particulièrement sensible à des substances avec lesquelles ils pourraient entrer en contact pendant leur travail. Les personnes sensibles ne sont pas engagées. De la même manière, les personnes porteuses du gène de la thalassémie ne peuvent accéder à certains emplois aux États-Unis, et ce alors qu'elles ne sont que porteuses de cette caractéristique et en parfaite santé. Quand les deux versions du gène subissent une mutation, les globules rouges circulant dans le corps des individus touchés se rétractent par manque d'oxygène. L'armée de l'air américaine avait ainsi fermé l'accès de son académie aux porteurs de ce gène, même bien portant. Dans les compagnies aériennes, ils ne pouvaient être engagés qu'en tant que personnel au sol, jamais comme hôtesse ou steward, et encore moins comme pilote. La discrimination génétique toucha presque exclusivement des citoyens américains de couleur qui sont plus souvent porteurs de cette variante génétique. À la suite de vives protestations, les restrictions furent toutefois levées. Dans les années à venir, il est probable que seront découvertes dans le patrimoine génétique humain de nombreuses variantes susceptibles de conduire aux mêmes fausses conclusions et discriminations. Par ailleurs, la découverte chez un individu d'un prétendu défaut de son génome risque de l'angoisser et de le priver de sa joie de vivre. Je cite « Le résultat du test qui énonce un risque statistique plus ou moins certain apparaît comme une hypothèse qui pèse sur la vie de la personne en bonne santé », s'inquiètent les experts Gunther Feuerstein et Regine Kolek. Parallèlement au nombre de diagnostics génétiques, le nombre de gens qui ne comprennent pas le résultat complexe du test et sont laissés seuls face à leur angoisse augmente. Les gens ont de plus en plus conscience de ce que des facteurs génétiques identifiables contribuent à l'apparition de presque toute maladie, et cela ne restera pas sans conséquences sociales, mais en garde encore Jörg Schmidtke, généticien à la faculté de médecine de Hanovre. Le défaut du patrimoine devient un défaut de l'individu lui-même. » Fin de citation. Nous savons bien que l'être humain peut subitement tomber gravement malade et en mourir. Cette hypothèse que nous refoulons le plus souvent devient, par l'intermédiaire d'un test génétique positif, même spéculatif, une menace précise dont il n'est plus possible de se défaire. Une nouvelle catégorie d'individus apparaît ainsi, celle des malades bien portants, ou des pas encore malades. Le suivi médical de cette nouvelle catégorie de patients sera bientôt une donnée réelle du système de santé, d'autant plus que les tests génétiques verront encore croître leur domaine d'application. Pour l'industrie pharmaceutique, cela représente un marché de taille. Son but est alors de développer des médicaments pour des individus qui ne souffrent d'aucun symptôme, mais dont le modèle génétique est anormal. Pourquoi ne pas vanter la prise quotidienne d'aspirine auprès des individus qui, d'après leurs gènes, ont une tendance à l'infarctus ? Et pourquoi ne pas prescrire de manière purement préventive des comprimés pour la mémoire à ceux que la nature a prétendument pourvus de cerveau à Alzheimer ? Il y eut un temps où la médecine préventive avait pour but de tenir les gens à distance du système de santé, à l'ère du diagnostic génétique. Son rôle est de les en rapprocher.
Juste une parenthèse par rapport à l'idée de d'un traitement préventif de l'Alzheimer. Le seul reproche que j'aurais à faire à cette idée, c'est que je suis pas vraiment franchement pas sûre que ça marche. Mais si jamais, je suis pas contre l'idée des, même si je suis assez adepte de la rien-thérapie en général, ça m'est arrivé d'être un peu débordée par la maladie, quoi. Donc l'idée, s'il existait vraiment des traitements préventifs de l'Alzheimer, par exemple. Moi, franchement, je trouve que la recherche médicale, bah déjà, je serais même pas au monde puisque j'aurais eu un problème de santé. J'ai oublié de dire par rapport à Sylvie tout à l'heure qu'elle m'avait dit que ça lui faisait drôle de penser que la plupart des femmes, si elles avaient su qu'elles portaient un enfant dans son état, aurait avorté. Et je dois dire que ça me clouait complètement le bec, mais en même temps, il faut quand même que je précise une chose, évidemment, si jamais t'as pas pu éviter que l'enfant est là, je suis pas validiste et handiphobe, quoi, tu vois. Oui. Une fois qu'il est là, il est là. Mais enfin, je vais dire les choses un peu crûment, je trouve que c'est mieux d'être en bonne santé qu'en mauvaise, si tu préfères. Je veux dire, pour soi-même, quoi. Et effectivement, pour des parents, il vaut mieux, c'est mieux de savoir que ton enfant va avoir une meilleure vie, qu'il souffrira pas, parce que Sylvie souffrait quand même, je veux dire, oui. En plus physiquement, et donc et je trouve que si tu veux tout ce qui consiste à essayer d'être en meilleure santé, en soi j'ai rien contre, s'il existait un traitement même préventif par rapport à la maladie d'Alzheimer ou par rapport à un cancer, pourquoi pas, c'est que je suis plutôt dubitatif pour l'instant, mais autrement, je suis pas contre l'idée de la médecine, y compris préventive, mais le côté anxiogène, de toute façon, je veux dire, il y a des choses où tu te dis, ben oui, quand tu vois, il y a des passages dans le bouquin où il dit on peut pas lutter contre la vieillesse, les gens veulent lutter contre la vieillesse. Je suis désolée, c'est contre les symptômes de la vieillesse que tu veux. Et le fait est que c'est mieux d'être jeune que d'être vieux du point de vue de la santé. Et que, je veux dire, c'est mieux de pouvoir soigner, ma mère a un pacemaker, je préfère qu'elle soit vivante avec un pacemaker que naturellement décédée d'une crise cardiaque, quoi, tu vois. Donc, si tu veux, c'est un petit peu la limite de cette critique, c'est que c'est comme pour la pilule ou quoi, tu te dis au début, mais ça donne le cancer. Ouais, mais tu veux le beurre et l'argent du beurre, quoi, grosso modo. Mmh. Tu voudrais les avantages sans les inconvénients. Voilà.
Mmh. Eh bien oui, nous rendons ici hommage donc à Sylvie Nazereau, qui nous a quittés il y a quelques années, et qui a animé d'excellentes émissions pendant des années sur Radio Liberté.
Sur les associations, ça s'appelle Parole d'association.
Allez, alors à un moment, c'est un passage où aussi ces pratiques donc de tests génétiques pourraient aussi ruiner le système de sécurité sociale, enfin piller en quelque sorte. Hein. Mais ça, bon, alors je passe et j'atteins le dernier sous-chapitre de ce chapitre de Les inventeurs de maladies de Jörg Blech. Il ne suffit plus d'être en bonne santé. La prévention des maladies héréditaires et l'élimination des gènes pathogènes font partie intégrante de la science depuis 1883. C'est à cette date que l'anglais Francis Galton, cousin du naturaliste Charles Darwin, fonda l'eugénique et créa le premier institut de ce type, le Galton Laboratorium de Londres. Le savant considérait que les dispositions physiques et psychiques des Anglais ne permettaient pas de régner sur un empire mondial. Grâce à l'eugénique, du grec eu, bien et génos, race, il comptait multiplier dans la population les profils héréditaires favorables. Au début du XXe siècle, l'eugénique était une théorie populaire qui faisait de nombreux émules, notamment quand il s'agissait d'éliminer des caractéristiques héréditaires prétendues mauvaises. En Norvège et en Suède, les malades mentaux, les criminels et les homosexuels furent stérilisés. L'eugénique fournit En outre, aux Allemands, le fondement qui devait permettre la discrimination et le génocide. Le 18 août 1939, il devint obligatoire de déclarer les nouveau-nés mal formés. L'Allemagne nazie devait être définitivement purifiée des handicapés. Aux États-Unis, au moins 60 000 hommes et femmes ont été stérilisés de force en raison de prétendues maladies héréditaires. En décembre 2002, le gouverneur de l'Oregon, a officiellement présenté ses excuses pour les 2600 personnes stérilisées contre leur volonté dans son état. La biologie moderne offre une nouvelle vie aux enseignements de l'orthogénie. Les généticiens anglais Gordon Ferns et David Galton estiment que l'eugénique doit à présent être défini comme, je cite, « l'utilisation de la science dans le but d'améliorer qualitativement et quantitativement le génome humain ». Fin de citation. Les gènes jugés, à tort ou à raison, responsables de maladies sont actuellement identifiés dans le cadre des recherches sur l'identité. Grâce à cette connaissance, les deux objectifs de l'eugénique deviennent réalisables. Les caractères héréditaires jugés mauvais sont éliminés. En raison de leur profil génétique, certains individus se retrouvent dans une caste biologique inférieure. Ils ont beaucoup plus de difficultés à trouver du travail, ils sont plus rarement promus. Il leur est difficile d'obtenir des crédits et de souscrire à une assurance vie ou maladie, autant de facteurs qui réduisent les perspectives de reproduction de ces individus. Les caractères héréditaires jugés bons sont multipliés. Les embryons issus d'un procédé artificiel sont soumis à des analyses génétiques et seuls les meilleurs embryons sont alors implantés dans l'utérus de la mère. On estime que ces techniques, diagnostic pré-implantatoire, encore interdites en Allemagne en 2008, année de l'apparition de ce livre, a été utilisée à l'étranger par des parents et des médecins pour environ 1000 enfants. Jusqu'à ce jour, toujours dans le but d'éviter de graves maladies héréditaires. Mais l'analyse se développera pour identifier les gènes de maladies et d'anomalies polygéniques. À Chicago, une femme de 30 ans, elle-même généticienne, a fait tester ses embryons fécondés artificiellement pour dépister une mutation responsable de l'apparition précoce de sa maladie d'Alzheimer. Sans cette analyse, le risque pour le bébé de devenir sénile à 40 ans aurait été de 50%. De cette manière, la jeune femme mit au monde une petite fille bien portante. Dans de rares cas, un patrimoine génétique sain ne suffit pas pour venir au monde quand le bébé présélectionné génétiquement doit par exemple en même temps servir de donneur d'organes. Le premier enfant de ce type s'appelle Adam Nash. Il est né en automne 2002 pour sauver sa grande sœur. Quelques secondes après sa naissance, dans une clinique américaine, les médecins prélevèrent du sang sur le cordon ombilical et introduisirent ensuite les cellules extraites dans le corps de la petite Molly. Âgée de 6 ans, la petite fille anémique disposait ainsi, grâce au don de son petit frère, d'un remède efficace, car bien supporté. Mais le petit sauveur n'était pas envoyé par le ciel, il avait en effet été sélectionné par un généticien. Adam a été fabriqué dans la cornue en même temps qu'une douzaine d'embryons. Les médecins ont soumis les germes à un test génétique et c'est Adam qui l'a réussi. Les caractéristiques de ses tissus correspondaient le mieux à celles de sa sœur. C'est donc lui que sa mère a porté et mis au monde, comme fils et comme donneur. Nous avons franchi une limite qui n'avait jamais été franchie auparavant, estimait à l'époque le bioéthicien Jeffrey Kahn de l'Université du Minnesota. Nous avons fait une sélection en vertu de caractéristiques qui sont les meilleures, non pas pour l'enfant à naître, mais pour un autre individu. Serait cela le début d'une ère nouvelle ? Manfred Stauber, de la clinique gynécologique de l'Université de Munich, craint en effet que la production d'enfants présentant le plus grand nombre de caractéristiques souhaitées puisse devenir monnaie courante. Adam, qui grandit joyeusement dans l'État du Colorado, est le précurseur d'une médecine encore inconnue. Ses gènes sont bons pour lui et en même temps utiles à une autre personne. Adam est plus qu'en bonne santé.
Juste une parenthèse, la démarche qui consiste à essayer de sélectionner finalement un ascendant, enfin tu vois, je veux dire un partenaire pour avoir un enfant génétiquement le plus parfait possible, ça date pas de des recherches génétiques de la science qui permet de faire ça.
Non.
Et une histoire qui est assez célèbre là-dessus, c'est l'humoriste Bernard Shaw, qui était réputé pour son intelligence, a été abordé par une danseuse, Isadora Duncan, qui était plutôt réputée, enfin à part son talent pour la danse, pour sa forme physique et sa beauté, et elle lui propose de lui faire un enfant en lui disant, imaginez si cet enfant avait ma beauté et votre intelligence. Et Bernard Shaw lui a répondu, ouais d'accord, mais imaginez que ce soit le contraire.
Oui, et bien voilà.
Oui, voilà, c'était...
Et bien, c'est ainsi que va se terminer notre émission aujourd'hui. Et nous vous disons à la semaine prochaine.
Je suggère que la semaine prochaine, on revienne sur un autre chapitre du livre.
Absolument, pourquoi pas, bien sûr.
Est-ce qu'on peut faire une petite annonce pour Démocratie?
Ah ben oui, c'est vrai, oui, puisque...
Voilà.
On les a rencontrés...
Oui, parce que vendredi qui vient, c'est-à-dire après-demain, hein, c'est ça, il y a le Démocratie que tu as donc interviewé déjà deux fois sur cette antenne, qui ouvre un nouveau café à Vitry-sur-Seine. C'est, je ne me rappelle plus l'adresse, donc faudrait... De toute façon, c'est sur Paris Lutte Info pour le vendredi 22. Oui. Il n'y a que ça ce jour-là sur Paris Lutte Info. C'est sur l'agenda militant Paris aussi. Si vous êtes intéressé, si Denis, qui cherche frénétiquement, où il a bien pu mettre ça, je vous suggère d'aller voir toutes les infos sur le sujet. Donc, c'est une association de gens qui veulent prendre en main leur. C'est des fous folles, enfin c'est eux qui sont pas moi.
Alors c'est à Vitry.
Oui. Allez-y.
C'est à Vitry, donc le 22, donc après-demain, le 22 novembre 2024. Et c'est au 13 Constant Coquelin.
C'est l'inauguration. Hein, c'est ça.
Voilà, c'est l'inauguration du Café Démocratie. Donc moi j'ai repéré la station de RER Les Ardouanes. Qui est la plus proche.
D'accord.
Mais voilà, il y a peut-être d'autres façons d'y aller. Et voilà, et puis il y aura quelques artistes, donc, dont je n'ai pas la liste ici sous les yeux, mais...
Mais pareil, vous pouvez aller regarder ça sur Paris Lutte Info. Voilà.
Salut, au revoir.
Au revoir.
Jean.